Débat télévisé pour la campagne électorale. Les deux adversaires, l'un le député sortant et l'autre son rival, débattent à la télévision. Le ton monte. Vont-ils en venir aux mains ? Le challenger lance à son adversaire. C'est cela, député têtu, tu pédales sec. C'est cela, député têtu, tu pédales sec.
Et voilà, c'était un petit palindrome de Gérard Durand, le gérant du rare. Et aujourd'hui, dans Dessous de scène, nous recevons Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Oui, oui, ben oui, parce que finalement, quand on voit Marlène Schiappa dans Pif Gadget, quand on voit Emmanuel Macron dans Playboy ou le contraire, on se dit que le mieux, ça serait finalement que pour disrupter totalement, le gouvernement envoie son ministre de l'Intérieur pour une interview à Radio Libertaire. En fait, non, pas surtout causer théâtre aujourd'hui. Et pour commencer, quelques petits... Je me souviens que Fabien prétendait être le dernier en France à avoir encore cet hideux autocollant en forme de canard jaune de 30 cm collé au coffre de sa deux chevaux. Je me souviens que quand le grand-père de Christophe voyait à la télévision un dignitaire russe en imperméable et chapeau mou embrassé sur la bouche, un dignitaire roumain en bas gabardine et chapeau mou à la descente d'un avion, il trouvait ça bizarre, mais c'était pour lui le signe d'une entente cordiale et franche entre deux pays frères. Quand il apprit que Christophe avait embrassé Loïc sur la bouche derrière la MJC, il avait trouvé ça dégoûtant, il avait giflé « Pas de ça chez moi ». Je me souviens de la grosse bite en carton jaune de 30 cm qui s'érigeait fièrement lorsqu'on ouvrait l'album de Tulavioc, lequel commençait sur la face A par Zop Zop Zop. Je me souviens qu'une araignée sur le plancher se tricotait des bottes, dans un flacon à limaçon enfilait sa culotte. Je me souviens que dans le couloir du 45-46, troisième étage UFR de mathématiques de Jussieu, il y avait écrit sur un mur « Regardez par le trou et vous verrez l'amiante ». Je me souviens de « Baisse-toi et broute » écrit sur une palissade de chantier près de la place Gambetta. Je me souviens de m'être dit une bonne centaine de fois, en quittant une boutique, un bistrot, une salle d'attente que je souhaitais, « Bonne fin de journée à des gens ». Que je ne connaissais même pas, pour lesquels je n'avais sans doute aucune affinité et qui ne méritaient peut-être même pas une bonne fin de journée. Je me souviens des gros clous en acier brillant sur les passages cloutés. Je me souviens qu'il est toujours amusant, en croisant un ami qu'on n'a pas vu depuis 3 ou 4 ans, de lui dire « Oh, Jean-Paul, c'est marrant, hier, justement, on parlait pas de toi » et de voir sa réaction. Je me souviens qu'avec les 2 euros que je lui avais donnés, le manchard était allé acheter une rose pour l'offrir à sa femme, assise sur le matelas au dos de l'abribus. Je me souviens de « C'est pas en allant voter que les femmes ont gagné le droit de vote », placardé sur un mur du marais. Je me souviens que c'est lors de la guerre en Bosnie qu'on a découvert le mot « sniper ». Je me souviens des casiers en acier brossé, de la consigne automatique au sous-sol de la gare Saint-Lazare, salle des pas perdus. Je me souviens de Yukio Mishima, de Sénèque, de Pierre Bérégovoy, d'Alan Turing, de Marilyn Monroe, de Thomas Chatterton, de Primo Levi, de Vladimir Mayakovsky, de Paul Celan, de Richard Brautigan, d'Attila Joseph, d'Ernest Hemingway, de Yasunari Kawabata, d'Arthur Koestler, de Romain Gary, de Cesare Pavese, de Stefan Zweig, du Général Boulanger, de Jacqueline Huet, de Jean Seberg, de Betty Mars, d'Albert Eiler, de Raoul de Godswarzel, de Nino Ferrer, d'Alain Lepresse, de Jeannet Buterne, de Bernard Buffet, de Vincent Van Gogh, de Pauline Julien, de Terry Moïse, de Sœur Sourire, de Violetta Parra, de Dalida, de Patrick Devers et de Cléopâtre. Vous trouvez le point commun quand même.
Bien si nous ne passe pas belle horace, depuis 20 ans l'amour tremblait. Bien souvent Tophine quitte la case. Beaucoup fois, mon prend le timé. Si ça que mes petits capaves causaient dans la somme sans bec, puis bronze, tiens, va raconte nous cyclone. Ne t'y n'es plus quoi d'un ennier, ne t'y n'es plus envie de dire non, ne t'y n'es plus envie de répondre. Mais moi, l'amour, jusqu'à la nuit, vin l'uomo contento che te toujours. Moi con tutto manigance, te con tout mon cirque tentation, te n'enferme-moi dans pied silence, mon père dis-toi dans sa question. Bien sûr, tu ne connais les autres décors, l'autre compagnie pour passer le temps, pour qu'il est comme mordant soupir. Mais finalement, oui, finalement, faut des vrais même beaucoup d'efforts pour vieillir bien sans vine trop mire. Mais moi, l'amour, toi, mon soleil, mon trésor, mon vélo, dans gras matin, jusqu'à la nuit, vine lourd, mon content, toi, gâté. Passe à même plus mauvais pied quand j'y la paix répond la paix. Bien sûr, nous l'homme trouve sous cadence, nous divaguer un peu plus tard, nous prothèse moins, nous coffre mystère. Nous reconnaître ça qu'un ne sait pas, essayer vite si mes méfiances, mais c'est toujours aux caresses laquelle. Contente-toi, que t'es toujours même, oh, l'amour. Toi, mon soleil, mon trésor, mon vélo. Dans gras matin jusqu'à la nuit, ville lourde, mon contente-toi, que t'es toujours.
Découverte d'un morceau sorti le mois dernier, une reprise de la chanson des vieux amants en créole mauricien par Lisa Ducasse avec des arrangements de Anne Passeo du projet Chaman. Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est bien Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, des créatures plus des invités. On va causer de trois spectacles aujourd'hui.
Deux spectacles et peut-être un concert, on verra bien, peut-être, pas tout de suite.
Pas tout de suite, mais.
Mais une sortie de disque.
Ça se prépare.
Voilà. Ça faisait quelque temps là qu'il n'y avait pas eu de théâtre, sauf quand Moa présentait l'émission. Alors. On va faire le tour de table et après.
Mais alors, bonjour. Hein,
bonjour.
Je suis Guillaume Destrême.
Guillaume Destrême.
Et moi, je suis Christelle Valois.
Christelle Valois, qui vient pour présenter une pièce, Un pont trop près, qui est actuellement à l'Essaillon.
Absolument.
Fabienne Elkoubi.
Fabienne Elkoubi. Qui va quand même parler du disque, hein ?
Oui, ça c'est le dernier disque que j'ai fait, qui s'appelle Mes Mémoires Enchantées, mais là je viens surtout pour le travail que j'ai fait avec Jacques.
Sur Malade Imaginaire.
Parce qu'on va annoncer la reprise à la rentrée.
Ah, d'accord.
Et le Malade Imaginaire, on va en parler aussi.
Voilà. D'accord. Et puis.
Donc, Jacques Elkoubi, qui joue et a mis en scène Le Malade Imaginaire de Molière dans une adaptation au temps du Covid.
Ouais. Ah, tu joues dedans ?
Je joue dedans, 4 rôles.
Ah oui, wow. C'est vrai, c'est extraordinaire, ça, 4 rôles. Et on ne te reconnaît pas, évidemment.
Ben, j'essaie.
Et moi,
c'est moi, Mao Crozet. C'est pas
moi,
vous, c'est moi.
Abaït, voilà.
Donc moi aussi j'ai vu pratiquement les mêmes pièces que toi.
Moi j'ai pas vu Le Malade Imaginaire,
tu as vu Un pont trop près.
Voilà.
Que j'ai vu aussi.
Dans une très belle salle, les Saillons.
Voilà.
Voilà. Alors, c'est tout frais, hein. Un pont tout près, je l'ai vu il y a quelques jours, hein. Je vais laisser Guillaume. Alors, Guillaume, alors je vous vois, je tutoie, je sais pas. Moi non plus.
Dans l'avion, je tutoie, mais parfois, je sais que pour la radio, pour pas.
C'est bon, alors je vous vois. Alors ça fait.
Voilà. Ça fait
plus sérieux.
Radio anarchiste.
Oui, c'est vrai.
Ça fait un.
Tutoie.
Nous, on est sur une radio anarchiste.
On va pas s'engueuler surtout.
Bon, je sais plus moi. Enfin bon, donc. Tu es déjà venu.
Oui.
Pour Nuit Blanche chez Francis.
Absolument. Oui.
Voilà. Hein, je me souviens, c'est. Et à l'époque. À l'époque, je ne faisais pas tellement de chroniques théâtrales, je me souviens. Ça fait donc un bail. Un bail.
Quelques temps, oui.
Voilà. Oui. On en parlera tout à l'heure parce que c'est une pièce aussi que tu vas reprendre.
Ça, bizarrement, oui, alors qu'on s'est interrompu depuis pas mal de temps. Oui, on va reprendre ça au Festival d'Avignon cette année.
Ah, voilà. Ben, c'est formidable. C'est une bonne. C'est une bonne nouvelle, d'accord. Voilà. Donc, et Claire Valois.
Christelle.
Donc, Christelle, oh, c'est Christelle. Claire, c'est... Là, je me trompe souvent sur les prénoms. Donc, Christelle. Donc, vous interprétez tous les deux un couple. Enfin, c'est pas un couple, en fait.
Et non.
Deux personnages qui sont... Bon, ben, qui sont déprimés. Au point d'un jour, chacun de leur côté, ils décident de regarder la scène d'un drôle d'œil, c'est-à-dire j'en ai marre de la vie, etc. Enfin oui, j'en ai marre. Il n'y a pas d'issue, enfin etc. Allez, j'ai décidé de me jeter dans la scène.
Ah, est-ce que c'est la scène, ça, on ne sait pas.
Ah, c'est pas. Moi, j'écoute.
En tout cas, c'est un cours d'eau. Oui.
C'est un cours d'eau.
Voilà.
Oui, j'ai pensé à la scène.
Ah, très bien, très bien, très bien.
Oui, c'est parce qu'on on joue à Paris actuellement. Oui.
Ça se justifie bien.
Donc, ils ont... Alors, ça fait rire, mais oui, effectivement. Oui, oui. Parce qu'en fait, chacun de leur côté, ils ont décidé ça. Mais ils se retrouvent complètement stupides. Parce que, moi, j'ai l'idée, je veux faire ça tout. Normalement, le suicide, c'est une affaire sérieuse. Donc, quand on y va, on n'a pas envie d'être dans...
Non, et puis c'est vrai que c'est assez peu... Bon. C'est assez improbable
de rencontrer quelqu'un qui a la même idée.
Qui vient pour faire la même chose au même moment.
Voilà.
C'est
voilà.
Le point de départ de assez cocasse, en fait. Improbable, mais...
Entre le point de départ d'une rencontre...
Finalement, oui.
Entre deux personnes qui forment un couple. Enfin, je veux dire, ils forment un couple sur scène.
Ah oui, ça, c'est...
Hein? Même si on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir, mais on a l'impression qu'ils vont former un couple. Mais ils ne sont pas encore un couple. Ah, c'est le spectateur qui
imagine. Je pense que le spectateur, dans tous les mécanismes dramatiques, entrevoit bien que bon, ces deux personnages-là, il va se passer autre chose que le fait de sauter du pont. Hein.
Ah ben voilà, c'est voilà. Ça. C'est ça. Voilà. Parce que s'ils se sautent du pont, il n'y a plus de pièces. Hein.
Non, ça va.
Voilà.
En tout cas, ils ne se connaissent pas au début, ça c'est certain, mais en fait, ils vont apprendre pendant toute la pièce à se connaître, à s'apprivoiser.
Et c'est ça qui est C'est ça qui est
Ce sera s'aimer.
On pourrait croire que le suicide est le sujet de la pièce, et finalement, c'est la porte d'entrée, c'est la toile de fond, c'est le prétexte à cette rencontre. Et c'est vrai que c'est assez. C'est assez précieux, c'est assez rare d'avoir une histoire, puisque finalement, il y a on pourrait dire que c'est même une histoire romantique, finalement. Une rencontre, une comédie. Mais avec le suicide comme toile de fond, quand même.
Oui, mais bon, je ne sais pas, parce que moi, je ne fréquente pas tellement les réseaux sociaux ni les sites de rencontres, mais j'imagine que les gens qui se rencontrent, qui montent sur les réseaux sociaux, et les gens de sites rencontrent, ils se confient, hein, ils parlent de leurs problèmes, et c'est comme ça qu'ils essaient de voir s'ils peuvent se comprendre. Je sais pas.
Bah, je suppose de toute façon, les rencontres où qu'elles se passent finalement, que ce soit sur des sites ou même dans la vie réelle, c'est de toute façon se passe effectivement avec des choses qu'on dévoile de soi, qu'on donne à l'autre et dans l'échange. Donc
oui, mais c'est pas si direct quand même, hein, parce que là tout de suite il se confie sur
les.
On
est au théâtre aussi.
Oui, voilà, ben voilà.
On est dans un temps qui doit se concentrer.
Parce que parfois il y a des, on rencontre des personnes, mais ça met un bon bout de temps avant, avant d'accrocher, quoi. Mais je veux dire, ben là on est au théâtre. C'est vrai qu'il y a cette dimension théâtrale, c'est-à-dire qu'il faut pas essayer de trop analyser ou psychologiser, je sais pas comment on dit, parce que c'est vraiment c'est sur scène, c'est du théâtre et c'est une porte ouverte aussi. Moi je pense le théâtre c'est une porte ouverte aussi au rêve, un peu à l'imagination et à laisser aller quelque part. Il faut que le spectateur puisse se laisser aller. Et puis les comédiens ou celui qui écrit la pièce.
Qu'on n'a pas cité d'ailleurs, hein, qui, Nicolas Dubois.
Nicolas, et ça a sonné non
pas.
Je pense que l'intérêt d'écrire, enfin d'écrire une pièce ou d'écrire un texte ou une poésie, c'est quand même de s'affranchir du côté trop réaliste ou. Pour moi, hein. Si c'est pour coller à la réalité,
oui,
une photo
de toute façon, c'est une. Mais c'est là, ça me semble être évident. C'est un peu le fait de toute démarche artistique, c'est quand même de proposer une vision du monde qu'on peut avoir, même si elle n'est pas extrêmement originale ou extravagante, qu'elle soit sincère, personnelle. Et c'est une. Oui, on propose une vision du monde finalement.
Parce que
par rapport au monde.
À un moment donné, dans la pièce et. Les personnages, ils sont en train de se poser la question, mais quelle est la meilleure façon de se suicider? Bon, et puis ils racontent pourquoi ils ont envie de se suicider. Mm-hmm. Quelque part, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, j'ai trouvé dans la pièce, parce que pourquoi on a envie de se suicider, mais c'est... c'est un gouffre.
Il y a plusieurs choses. Il est question de pourquoi se suicider, mais aussi à un moment, on passe en revue les... se passe en revue, les moyens, ce sont deux.
Oui, mais alors ça, c'est pour rigoler. Enfin, c'est pour sourire.
Entre voilà, c'est de l'humour noir, mais c'est drôle. C'est vrai qu'on rit dans la salle.
Mais il vaut mieux rire, hein, parce que si on rit pas, c'est pas la. Je sais pas. On n'est pas venu pour
pleurer.
C'est ça.
Non, c'est vrai que c'est pas le
thème,
but. Hein.
Le thème, c'est le suicide, mais concrètement, et on l'a entendu beaucoup, beaucoup, on le dit aussi dans nos textes à un moment, c'est un hymne à la vie. Ce spectacle.
Bah, oui, parce que ce sont deux personnes qui viennent pour se jeter par sur le pont et qui reprennent goût à la vie en s'intéressant à l'autre. C'est-à-dire Emmanuel, à un moment donné, elles se demandent mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme et Guillaume, que tu joues, ils se demandent mais qu'est-ce que c'est cette fille-là, elle est jolie, elle est belle et elle veut se suicider, mais c'est extravagant, c'est pas possible. Et ils vont, à force de se poser des questions, ils vont réussir à se sauver l'un l'autre.
Voilà. Avec quelques rebondissements qu'on ne divulgâchera pas.
Voilà. Alors, on va dire où ça se passe, et puis vous allez dire un extrait.
On va faire un petit extrait, d'ailleurs.
Alors, c'est au théâtre de l'Essaillon, c'est ça?
Oui.
Rue Pierre-Aulard.
Voilà. Les habitués de théâtre à Paris connaissent, parce que c'est un lieu où se produisent beaucoup de spectacles, et avec une exigence de qualité, je dois dire. Mm-hmm. J'ai toujours vu des choses.
Il y a le Café de la Gare à côté.
J'ai juste à côté de la Gare.
Ouais. C'est voilà. Métro Hôtel de Ville ou Rambuteau.
Voilà.
On est en plein centre.
Il y a le Centre Pompidou qui est en face. Hein.
C'est ça.
C'est
un très joli quartier, très central. Donc c'est tout. Nous jouons tous les lundis et mardis à 19h. Voilà. Ouais. Et là, on va vous faire un petit extrait de. Bon, une petite minute. Hein. C'est un moment qui est au tout début de la pièce.
D'accord.
Pour tout vous dire, oui, j'ai hésité. J'ai pensé au gaz, par exemple. Je trouvais ça propre, pas vous?
Si, mais l'odeur me dérange. Je la trouve désagréable. Vous savez, ça vous prend un peu au cœur. Hein. Bon, vous allez me dire, c'est fait pour ça. Hein. Pour qu'on ne laisse pas allumer par mégarde, c'est vrai. N'empêche, moi, ça m'a toujours rendu malade. Ça sent quand même extrêmement fort, hein. Et je voulais pas importuner mes voisins. Bon. En plus, imaginez quelqu'un, bon, je sais pas, s'allume une cigarette dans l'immeuble, bon, vous voyez, moment, ou un court-circuit, une ampoule qui éclate, un grille-pain dans l'appartement d'à côté, bah, ça serait plus un suicide, hein, ça serait une hécatombe. Non, non, ça me semblait pas être un choix très judicieux. Et vous, le gaz? Qu'est-ce qui vous y a fait renoncer?
J'ai un four électrique.
Ah oui, forcément.
Oui. Et en plus, il est vraiment tout petit.
Alors là, c'est un signe. Je crois que vous avez bien fait de renoncer.
Je crois aussi.
J'avais pensé aux poissons aussi.
Ah oui, aux poissons?
Non, aux poisons, avec un Z.
Ah oui, bien sûr, avec un Z.
Mais j'ai eu peur que ce soit douloureux, l'estomac, tout ça. J'ai l'estomac fragile.
Moi, je m'y connais pas assez. Le poison, c'est une question de dosage aussi. Il faut être très précis, sinon vous avez raté. Vous avez raison, on peut se rater, ça peut faire terriblement mal.
Je pense que c'est bien, mais plutôt pour les gens plus expérimentés.
J'allais vous le dire. Et autant vous le dire tout de suite, avant que vous me posiez la question, j'ai horreur des armes à feu. Hein. Alors ça, c'était hors de question, et pour plein de raisons.
Oui, je dois dire que me tirer une balle, oui, ça m'est bien passé par la tête. Hein. Mais au final, je suis comme vous. J'aime pas ça.
Ah, d'accord. Ouais, ouais.
Out of the way au fusil de chasse. À deux dans l'eau, poignets ouverts. Sénèque à nos revoir mes frères. Van Gogh au champ, sous les corbeaux. La tête en sang sur le tableau. Monroe au dos d'un magazine. Comme une photo de Marilyn. À quoi bon se suicider? Il suffit d'attendre. Harakiri pour Mishima, la Valkyrie d'Hiroshima. Liquide et familialement, Göring, sa femme, ses six enfants. Virginia Woolf par immersion, Bader Meinhof sans sommation. Et Anne Palache pour le printemps, dans le naufrage un phare vivant. À quoi bon se suicider? Il suffit d'attendre. Mayakovsky entre deux verres, le cœur aspire au revolver. Offrons le feu pour Monterland, plus courageux que résistant. Paul et Laura, la Fargue augure, le droit des vieux aussi à nu. Alalali, qui sait si là, raison d'Ali sur Dalida. Jean-Louis Borry, Romy Schneider, dernière bobine en solitaire. Patrick Devers, par accident, un revolver entre les dents. Hajar Doublan, Romain Gary, mort à 30 ans, Recanati. Moi je m'y rends, mais rien ne presse, la mort me prendra par paresse. À quoi bon se suicider? Il suffit d'attendre. La poudre au cœur. Pour 16-7 grammes, Mortchet Baker à Amsterdam. Sans mot d'auteur, incognito, Jacques Delauteur plus près d'Artaud. Au terminus, Guy par le col, après un dernier verre d'alcool. Et Marino, sans m'embrasser, pendue chez elle l'hiver passé. Vous dont le cœur est trop tendre, vous dont le cœur s'est vidé. À quoi bon se suicider? Il suffit d'attendre.
Dans son spectacle musical au siècle dernier, Claude Semal interprétait cette superbe chanson « À quoi bon se suicider ? Il suffit d'attendre », catalogue complet ou presque des façons de se suicider pour des personnages célèbres et fin, effectivement, sur un personnage qui lui était proche. Je vous recommanderais, d'ailleurs, je le lisais cette semaine, aussi le magasin des suicides de Jean Tellet, absolument délicieux dans l'humour noir. Et là, j'ai quand même noté que l'idée du suicide par balle qui n'est pas passé par la ma tête, c'est quand même sympa. Bien.
et alors, c'est un peu différent, mais ça me fait penser aussi où je voudrais pas crever de Boris Vian aussi.
Ah.
Hein, je vois pas crever sans avoir le cancer, je vois pas crever sans, je sais pas. Ça a un petit côté aussi. Humour noir aussi, qui est pas mal.
Moi, je voudrais dire une chose. Dans la culture arabe, tout ce que j'ai vu, on appelle ça le sabab. Sabab, c'est le prétexte.
Ah oui.
Donc c'était un sabab pour vous rencontrer. Voilà.
Voilà. Et alors, tu disais, Christelle, que c'est Nicolas Dubois, qui est un jeune auteur. Hein.
Oui, c'est la première pièce qui est mise en scène de Nicolas Dubois, c'est ça. C'est la première fois que cet auteur est joué.
Ah, d'accord. Alors, ça doit lui tenir drôlement à cœur, quand même. Une première pièce mise en qui est sur scène, c'est pas rien. Hein.
Ah ben, il est là tous les soirs.
Hein, c'est un baptême de... Baptême, on dit baptême de l'herbe. Là, c'est un baptême de Seine.
Un baptême de planche.
Un baptême de planche.
Et le texte est édité ?
Non, pas encore.
Et il a le trac ?
Alors ça, il faudrait lui poser la question. Je ne sais pas.
Sûrement.
En tout cas, je pense qu'il est heureux parce que ça rit dans la salle, que les retours sont bons et que ça doit être très agréable quand même pour lui. Absolument. Je pense que sinon, il ne viendrait plus.
Tous les soirs, il vient.
Il vient toute la présentation. Il n'était pas là juste une fois, la dernière. Là. Mais sinon, il est là tout le temps.
Il est là tout le temps.
Ouais.
Et donc, tu disais que vous aussi, vous avez participé.
Oui, ça a été un travail d'échange. D'abord, c'est vrai qu'au départ, la demande, elle est venue de nous, tout particulièrement de Christelle.
Ah bon ?
Qui lui a dit, voilà, écris-nous quelque chose.
Ouais. Donc, c'est une pièce qui est cousue...
C'est écrit pour nous. En fait, c'est ça. En fait, Nicolas est un ami et il est. Au départ, il était quand on s'est rencontrés il y a très longtemps. Il est concepteur rédacteur en pub et moi, je fais pas mal de voix off. Je faisais des voix off pub et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés il y a peut-être une quinzaine d'années. Et j'ai joué avec Guillaume Destrem en 2010, je crois, dans une pièce de théâtre qui s'appelait Le Coltan. On avait un tout petit passage en commun et on était très frustrés, on avait très envie de jouer ensemble. On a cherché longtemps une pièce et puis finalement un jour, je vais la faire courte, mais Nicolas m'a dit, j'ai dit à Nicolas, et pourquoi tu nous écrirais pas une pièce ? Moi, tu me connais, voici la photo du comédien en question, Guillaume Destrem, voici sa bande démo, regarde et écris-nous un truc. Dans cette veine-là, et puis voilà, parce que j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Et donc, je lui ai dit quelque chose un peu comme l'aide-mémoire de Jean-Claude Carrière. Et puis, il a eu la bonne idée, il nous a dit « ça va être super, ça va être une comédie, et puis en fait, ça va se passer au bord d'un pont, et ça va être deux personnes qui se suicident. » Voilà, moi j'ai très confiance en lui, donc je savais qu'on rirait quand même. Et puis, il me connaissait, il ne connaissait pas Guillaume, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il a réussi à nous écrire un personnage qui certes me ressemble, il y a plein de similitudes chez Emmanuel et moi, mais il a réussi à percer qui était Guillaume alors qu'il le connaissait pas. Il y a plein de choses qui existent chez Guillaume en vrai, qui sont dans le personnage de Guillaume aussi.
Ah, d'accord.
Dans cette pièce.
Moi, je connais. Oui. Ou alors, c'est le comédien qui déteint sur le personnage ou inversement.
Non, mais après, je pense qu'on peut avoir, une personnalité dans la vie et puis avoir une personnalité de comédien aussi.
Oui, c'est ça.
Je sais que je peux avoir des registres en tant que comédien qui sont pas du tout, je pense, ma personnalité.
Non,
dans
parce
la
que
vie.
Moi, je l'ai vu dans Nuit Blanche chez Francis, c'était autre chose.
Je voudrais poser une question. D'où vient cette histoire du suicide? L'idée du suicide même.
Ah ben ça, ça c'est vraiment Nicolas qui a débarqué avec sa première, avec la première mouture de la pièce, avec cette idée-là.
Ah oui.
C'est vraiment lui qui a.
Il n'a pas expliqué pourquoi, comment il a
inspiré. Non.
Si, il dit quelque chose dans la note d'intention. Alors qu'est-ce qu'il dit?
Oui, alors il explique.
Je crois que nous vivons aujourd'hui une période sombre de notre histoire. Qu'entre les confinements, les attentats, les accidents ou les actes de malveillance, les médias classiques et les réseaux sociaux nous abreuvent tous les jours d'histoires tristes, d'histoires qui commencent bien et finissent mal, j'ai voulu prendre le contre-pied de tout cela. Voilà. Donc quand même, il fallait que ça sorte, quoi, plus ou moins.
Ça ne l'amenait pas forcément au sujet du suicide, mais oui. En tout cas, il était animé par...
Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais l'idée du... Justement, parce que, quelque part, on parle du suicide, mais c'est comme si, dans un bar, les gens, ils commençaient à se dire « Toi, tu n'as jamais eu envie de te suicider. Comment tu ferais si tu te suicidais ?» C'est un petit côté un peu... Oui. Pas dérisoire, mais
discussion
un peu...
Discussion de comptoir, un peu.
Ah, oui, c'est ça. N'importe qui peut se poser la question. T'as pas eu envie de te suicider
un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Kader, il s'est laissé mourir sur son lit. C'est sa sœur qui l'a découvert.
Ouais, alors là, c'est dramatique, là, par contre.
Carrément.
Il
s'est laissé mourir sur son lit.
Non, je crois que c'est quelque chose qu'on...
Ça peut venir à l'esprit de tout le monde.
Il y a une manière. À un moment.
Ça peut venir à l'esprit, je pense, de beaucoup de gens. Peut-être pas tout le monde, faut pas exagérer non plus.
Je suis pas sûre d'avoir eu envie de me suicider. Mais
se poser la question.
Pourquoi on le fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui ferait peut-être qu'un jour... Je pourrais basculer, même si bon, on n'est pas forcément.
Puis très souvent la question de, est-ce qu'on est indispensable? On sert à quoi dans ce monde, dans cette vie? Pourquoi?
Et puis c'est un mystère quand on voit aussi le suicide des autres. On essaie de percer. C'est mystérieux. On dit toujours que. Le pourquoi, il n'y a que celui qui l'a fait, qui le savait vraiment, finalement.
Puis on en parle aussi beaucoup en ce moment avec l'euthanasie. Les personnes qui sont en fin de vie.
Oui.
Parce que même que tu sois en fin de vie, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que je ne vais pas... C'est un suicide aussi de se...
Oui, puisque maintenant la loi le permet.
Oui,
mais soi-même... justement,
dans la pièce, le personnage, il est un peu confronté. Alors, il n'est pas encore dans un état...
Il a la maladie et il se pose la question.
Il pense qu'il est malade et qu'il n'a pas envie de... Lui, c'est ça. Évidemment, l'une et l'autre ont des raisons différentes de vouloir se supprimer. Mais effectivement, le personnage de Guillaume, lui, c'est un rapport à la maladie.
C'est un rapport à la maladie,
Et ça, on le découvre... tardivement, c'est un spoil.
Non, ça arrive à peu près au milieu de la pièce.
Enfin, moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est comment les deux personnages arrivent à se rapprocher l'un de l'autre, à s'intéresser l'un à l'autre. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant.
Bien sûr.
Cette transformation, c'est vrai qu'on commence... moi, je commence super triste et on finit... On finit les yeux dans... ça finit bien.
puis vous lancez des fleurs. Vous dites, mais vous êtes pas mal quand même. Moi, je trouve ça mignon.
C'est une comédie qui a quelque chose de profondément romantique, aussi.
Ah, c'est romantique aussi, Et je pense qu'au fur et à mesure que vous continuerez les représentations. Ce sera encore de plus en plus, on vous verra vous rapprocher.
Mais en tout cas, assez bizarrement, là, on est maintenant à la cinquième représentation à Paris. Alors qu'on est en train de parler d'un sujet là, extrêmement grave, qui est celui du suicide, on constate que ben, ça rigole de plus en plus quand même.
Ça rigole de plus en plus. Ouais. Bon, ben, alors c'est bien alors.
Voilà.
C'est bien parti.
Rions de tout, y compris de ça. Hein.
Oui, et puis c'est libérateur de parler de la mort.
Absolument. Puis
ça aide à vivre.
Et puis c'est ça, puis c'est parler de la vie.
Bien sûr. Voilà, exactement.
Il y a des gens qui sont venus à la fin du spectacle vous dire que ça faisait résonner quelque chose en eux, comme une corde de pendu, je rajouterais. Mais...
oui, ça c'est assez incroyable. Il y a des gens qui... En fait, chaque sujet, on a plein de sujets différents. Et il y en a qui sont touchés par le suicide. Ah bah tiens, c'est arrivé à quelqu'un. Ou à Toulouse, une dame me disait nous avons empêché une jeune fille de sauter, justement, etc. Mais aussi, on parle de la maladie. Et il y a des gens qui viennent nous dire ça me touche tellement parce que c'est un sujet. Voilà, il y a eu mon père qui, etc. À un moment, on parle d'écologie aussi. Il y a une petite jeune qui est venue nous dire à quel point. Elle trouvait ça important qu'on souligne ce sujet. D'ailleurs, on a changé une petite chose dans la mise en scène pour rester complètement écolo jusqu'à la fin parce que nous ne l'étions pas. Ah ouais. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a plein de sujets. La femme, le féminisme aussi. Il y a des jeunes filles qui sont venues vers moi en me disant « c'est super important d'en parler, les étudiants ». Il y a plein de sujets et en fait ça touche tout le monde à un moment ou à un autre. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça touche les gens à différents moments. Mais finalement, c'est fédérateur.
Oui, parce que en fait, vous discutez entre vous, vous conversez, les deux personnages, mais vous conversez de façon simple. C'est très, très abordable, je veux dire. Vous. Et donc, moi, la vie, ça peut toucher.
Vous avez vu la langue, c'est effectivement. Jacques disait que ça fait quelque chose de très cinématographique. C'est vrai.
Oui,
que,
c'est ça.
C'est vrai que c'est un langage. Oui, c'est pas. C'est.
D'ailleurs. je trouve ça, c'est péjoratif, mais je trouve que ça fait roman photo là.
Eh ben, très bien.
L'affiche.
L'affiche. Ah ben oui.
C'est les romans photo d'autrefois là.
Oui, tout à fait.
ça fait affiche. Années 50 ou...
Peut-être.
Oui. Ça fait penser un peu à Jean Gabin et Michel Morgan.
Très bien, mais...
oui, alors pour expliquer...
J'exagère un peu, mais bon...
Pour expliquer aux spectateurs, à la fois aux auditeurs...
Il y a quand même l'imperméable, hein.
C'est ça. Il n'y a pas le béret.
La belle Emmanuelle porte un imperméable. Et le beau Guillaume, il a des allures un peu de Gabin.
Ah ben merci.
Voilà. Oui, pour expliquer aux auditeurs, donc on est debout, seul sur un pont. On voit pas l'aurore.
C'est comme dans les mélos, quoi, des années 50 ou des années 40. Hein. Il y a un petit côté mélo. Au départ. Hein.
Chacun après, face à son vide.
C'est ça. Et en même temps, ils sont ensemble. Ils se tombent le dos, mais ils sont ensemble. Bon.
Et pourquoi le S, il se casse la gueule?
C'est pas le S qui...
Si, pourquoi le S se casse la gueule? Pour donner un petit côté... Enfin, pour bien montrer qu'il y a un petit côté comédie. Ça, c'est, ça, c'est le côté graphisme pour dire, attention, vous inquiétez pas, on se tire pas une balle du tout à la fin, on ressort avec le sourire. Voilà.
Oui, mais c'est marrant.
C'est l'idée de la chute, mais
c'est l'idée de la chute, c'est ça, c'est l'idée de la chute aussi.
Clin d'œil. Voilà.
Super. Alors, je me disais, Nicolas, pour faire la transition... Est-ce que alors je sais pas si vraiment il parlait de coronavirus, Pierre Dac et Francis Blanc, il parlait de virus, hein, voilà. Alors, parce que dans la pièce Malade imaginaire, il est question de virus.
Tout à fait.
Il désinfecte, tout le monde désinfecte. Pour tuer les puces, les moustiques, les insectes, les vibrions et les stériles et les virus. Et les virus, et les virus, et les virus, et les virus, et les virus. Quand nous aurons tout désinfecté, grâce au Mimi, grâce au Mimi, au ministère de la Santé, nous serons tous en bonne santé. On pourra se mettre à chanter. Vive la vie sans virus, sus au microbe, sus. Pour chasson tant et plus, l'antivirus. Grâce à l'antisepsie, l'hygiène et l'asepsie, plus jamais les amis d'épidémie. Riche comme Crésus ou bien beau comme Phébus, on est tous des minus et plus. Si on ne vit pas la vie sans vivi, si on ne vit pas la vie sans virus, si on ne vit pas la vie sans virus, sans virus.
Voilà. Là, c'est un petit extrait de la chanson des virus.
Et ça
voilà.
Résonne sacrément aujourd'hui.
Ben voilà.
Parce que là, on a l'impression qu'on a eu quand même une forme de litanie.
Oui.
Pendant cette épidémie extraordinaire. Ça tombe bien.
Alors, j'ai pensé à ça parce que.
Pour notre ordinaire.
Le malade imaginaire au temps du Covid.
Voilà. Mmh. C'est ce qui m'a donné l'envie et l'idée de. Justement, pareil, par rapport à la vertu cathartique du théâtre, c'est de se dire, voilà, on a tous vécu la même chose, et ça va faire du bien à tout le monde, que ce soit évoqué dans un spectacle, de pouvoir en rire.
Ouais.
Voilà, et aussi que les paroles se délivrent, que les gens viennent nous parler après, et que chacun évoque son vécu de la chose, à travers un texte... 1000 fois revisité, mais le revisiter comme ça sur une mise en scène moderne qui parle à tous sur d'un seul coup cette peur, est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est pas réelle, est-ce que nous on a été aussi à certains moments des malades imaginaires en s'inquiétant pour le moindre truc, c'est intéressant.
C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Hein.
Et c'est pas fini, mais bon, justement, j'espère que c'est pas fini au niveau de nos représentations surtout, et qu'on en a plein d'autres encore.
Mais comment? Alors, parce que tu parles de la pièce de Molière, donc...
Voilà, tout à fait. Ben, le texte, c'est celui de Molière. On a fait quelques petites infidélités, on rajoute des petites expressions, mais vraiment, le minimum, voilà. 3-4 fois, qui sont des petites surprises, je ne veux pas trop les évoquer, parce que sinon, ça défleure l'histoire. Enfin, des choses qu'on a tous vécues, voilà, comme les applaudissements à 20h, comme les passes sanitaires.
Ah oui, ça, je m'en souviens, les applaudissements à 20h, voilà. Je m'en souviens.
Le masque, évidemment, le gel, enfin, tous les trucs.
Nous, on avait droit à Aise, on avait droit à une demi-heure hein, de je ne sais plus quoi, de musique, et puis après les applaudissements.
Voilà.
Ah oui, c'était un
les sur-chaussures, l'an 2000. Hein. Les en 2020. Enfin, tous les trucs. Moi, j'ai des amis infirmières, donc j'en ai profité pour récupérer plein de trucs. Voilà. Voilà, et donc c'est super d'évoquer tout ça. Et puis ça nous aide sur quand on fait plusieurs personnages.
Ah ouais.
Ouais, parce que comme ça. Seul coup, t'enfiles.
Et donc.
Charlotte.
C'est toi qui joues la Charlotte, non?
Non, non, mais si tu veux, par rapport à, par exemple, Purgon, qui a juste une scène, tu mets une Charlotte, deux, trois petits détails, machin truc, et très vite, t'as un autre personnage. Quand tu dois changer très, très vite.
Ah oui.
Tu vois, c'est l'avantage de tout ce matériel.
Moi, j'aimais bien, justement, la scène des médecins, là. Je sais plus, j'avais des illustrations. On voyait le médecin, je ne sais plus quel nom, il s'appelait Diaphorus,
oui,
ou je ne sais pas quoi.
Oui, Diaphorus.
Et il avait, alors Purgon. Ça c'est dans le spectacle de Nuit Blanche chez Francis, je ne sais pas, il y a un sketch. On voit le médecin,
c'est sur la danse macabre.
Et on le voit avec une seringue immense.
Oui, ça voilà. Nous on a aussi. Ça.
Et là,
ça,
chez Molière...
Ça c'est le côté lavement. C'est-à-dire que d'un seul coup, rien qu'en voyant ça, puisque finalement c'est un, j'allais pas dire c'est un coït interrompu, mais pas loin. En tout cas, c'est un lavement interrompu, puisque le frère interdit le lavement. Mais donc, il arrive avec son gros truc, et c'est vrai que c'est assez effrayant, cette idée comme ça qu'il y a des gens qui s'enfilent.
Mais j'avais des illustrations, je me souviens, sur des fascicules de Molière. Moi, j'étais fascinée par ce médecin, là.
Tout à fait. Et ça, sa seringue, là. Cet objet par rapport au clin d'œil.
Ouais.
Et aussi à la démesure. C'est important de créer des images comme ça.
Ah oui.
Qui sont assez drôles, quoi. Et voilà. Donc, oui, il y a effectivement les Diaphorus. Là, ils ne sont pas dans une. Comment dirais-je? Dans une imagerie du médecin, évidemment, de l'époque, puisque c'est aujourd'hui. Donc, certains médecins sont avec des blouses. Mais les Diaphorus, ils sont plus dans l'imagerie, puisque c'est le père et le fils.
Ouais.
Ils n'ont pas besoin d'être en blouse. En fait, ils sont plus dans l'imagerie ridicule. Voilà. Donc, je vous dis pas non plus.
Et les costumes.
Ils sont habillés.
Les costumes. Alors, ils sont comment les costumes?
Mais ils sont modernes avec des couleurs un peu parallèles.
Ouais.
Voilà. Et
les blouses blanches.
Il y a des blouses blanches. Il y a un stéthoscope, enfin bon, voilà, un peu toutes les trucs. Mais évidemment, ils sont très drôles, hein, parce que les Diafoirus, si les Diafoirus ne sont pas drôles, alors là.
La cata.
Ben oui, c'est pas vraiment servir Molière, parce qu'il il les a écrits pour ça. Maintenant, on a réduit quand même considérablement. Moi, j'ai coupé, par exemple, la moitié de la scène entre les deux frères, où on évoquait beaucoup, beaucoup la médecine, parce qu'il y a des choses qui sont complètement obsolètes.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est bien de parler du ridicule de la médecine, et non pas du ridicule des médecins. Donc, il y a des choses qui allaient très très loin, qui sont plus du tout audibles. Et on a changé quelques mots, parce qu'il y a des mots, par exemple, comme « appende », appendé, qui est apporté, bon, plus personne ne connaît ce mot-là.
Donc,
il y a quelques mots qu'on a remplacés par un autre mot qui est plus clair.
Est-ce qu'il y a eu des médecins qui sont venus en tant que spectateurs? Qu'est-ce qu'ils en pensent?
Là, on va en avoir quelques-uns de médecins, donc je le saurais. Mais là, je ne savais pas s'il y avait des médecins. Oui. En tout cas,
ça serait intéressant.
Les gens sont venus nous voir après, mais jamais pour des choses aussi précises que ça. Parce qu'ils étaient tous un peu... En fait, pendant le spectacle, tu étais là. Mmh. Les gens applaudissaient pendant le spectacle. Oui, à des tas de moments, ça applaudissait. C'était une grosse surprise.
Ouais.
Parce que applaudir pendant le spectacle plusieurs fois, en dehors du moment où je leur demande d'applaudir le personnel soignant, c'est une grosse surprise. Et on a remplacé, par contre, tous les intermèdes par des chansons d'aujourd'hui.
Donc,
il y a des chansons d'aujourd'hui qui parlent beaucoup plus aux gens, parce qu'eux-mêmes, ils les ont fredonnés. Voilà. Alors, des fois, on remplace un ou deux mots pour les faire résonner autrement. Mais voilà, donc, il y a des petites chorégraphies, des petites choses
sympas. C'est une pièce drôle, quoi. C'est une pièce...
très drôle.
Très drôle.
Bah, déjà, Molière, il a écrit pour ça. Ouais, j'ai coupé la scène de Louison, c'est-à-dire un personnage, parce que Molière lui-même l'avait rajouté pour créer un rôle par rapport à sa troupe. Mais en fait, il n'a jamais été très satisfait de cette scène-là. C'était un petit peu du remplissage. Donc, voilà, ça n'apportait rien. Donc, du coup, ça permet au spectacle de durer moins longtemps et d'être plus enlevé.
Ouais.
D'accord. De toute façon, Molière, qu'est-ce qu'il aurait dit, hein? Il aurait dit, d'accord, vas-y.
Oui, c'est important. Moi, je sais que quand j'avais monté Tchekhov, les gens riaient beaucoup.
Et... C'était aussi une adaptation comme ça pour Tchekhov?
Oui, c'était aussi en costume moderne.
C'est ta spécialité d'adapter
Pas forcément. Non. Disons que mes premières mises en scène de textes du répertoire, j'avais tendance à monter en costume. D'abord parce que souvent, les acteurs te disent, ah, j'ai envie de jouer en costume. Bon, bah. Et puis, en fait, on fait un peu tous les fantasmes qu'on a envie sur le traitement du costume. Mais une fois qu'on l'a fait, on trouve que ça apporte pas énormément, parce que je trouve que le fait de le faire en costume moderne, il y a des identifications qui sont plus fortes.
Ah, d'accord.
Sur des situations. En tout cas, moi, quand j'ai monté la Cerisée, Tchekhov disait dans ses courriers que souvent, on le montait comme une pleureuse. Et je trouve que c'est important dans l'âme russe de passer du rire aux larmes sans arrêt. Donc en fait, les personnages sont parfois très drôles et très ridicules. Et en même temps, ils ont quelque chose d'émouvant. Et je trouve aussi que c'est bien de le retrouver aussi dans Molière. En tout cas, évidemment, c'est une farce et il faut rire de soi, de tous ces petits tracas. Et ça fait du bien.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ça.
Je ne sais pas si Mora veut en dire un mot, parce qu'il avait...
Non.
Enfin, tu t'es bien amusé quand t'es venu.
Oui, je sais bien.
Et donc, j'ai ça se donne le vendredi 12 mai et samedi 13 mai
voilà.
À 20h30. Et c'est à Créteil, alors.
C'est à l'MJC Créteil de Village, on l'avait déjà créé pour les deux premières représentations. Donc là, c'est des séries de représentations pour la création du spectacle. Et après, on va le jouer sur Paris, on va le tourner sur des municipalités, avec des scolaires, des choses comme ça. Mmh. Et puis, je trouve bien pour les adolescents qui voient Molière aujourd'hui, que ça leur parle, d'abord qu'ils voient que le théâtre est pour eux, qu'ils voient la modernité du texte de Molière.
Tout âge, quoi.
Oui, parce que s'ils étudient une langue qui est un peu plus... des tournures de phrases qui sont un peu plus raffinées, ils s'aperçoivent que ça leur est accessible au bon moment si tu leur éclaires le langage, et que donc c'est le théâtre, c'est pour eux, le langage, c'est pour eux, et les ados, ils adorent les chansons, la danse... Ils ont l'impression, parce qu'il y en a tellement qui font ça dans leur chambre, que voilà, ils sont contents que les comédiens soient encore des ados, quoi.
Est-ce, Est-ce qu'on peut trouver encore le sketch Pique et Pique? Non, ça se trouve plus.
Si, oui, la danse, la danse macabre.
Non. C'est pas la danse macabre.
Si, 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 sur la musique de...
Ah bon, c'est la danse macabre?
C'est un sens, oui. Oui, c'est sûr.
Ah, c'est sur la danse macabre. Ah oui, Pique et Pique, d'accord.
Ah oui, c'est ça.
Ouais, peut-être que Nicolas va la trouver.
Mais je ne sais plus qui chantait. Je crois que c'est les Quatre Barbus qui chantaient ça.
C'est Quatre Barbus.
Je crois que c'est les Quatre Barbus qui chantent ça. Enfin, nous, en l'occurrence, on le chantait aussi dans notre spectacle, dans Blanche et Francis. Mais...
Vous n'avez pas fait une captation sonore de ça?
Si, si, mais elle n'est pas en ligne. Le spectacle a été... Il y a une captation, ouais. Ouais.
Moi, j'adore cette histoire. Pique, pique, pique.
C'est piqué, piqué. Moi, c'est les cachets.
Et donc, ça va se passer à Avignon.
Alors, ce spectacle qu'on a créé, alors, c'est un vieux machin, puisqu'on l'a créé
en Nuit Blanche.
Chez Francis.
Chez Francis.
Voilà, ouais. Vous l'avez compris, c'est donc l'univers de Francis Blanche qui est visité à travers les chansons, les sketchs, les poèmes, les aphorismes. Voilà.
Mais c'est très riche, hein, c'est un spectacle qui est très riche.
Ah, oui, oui.
Hein.
Et d'ailleurs, ça, là, Avignon.
Ça sera à Les Saillons aussi. Les Saillons, à Avignon. Donc c'est un spectacle qu'on avait créé en 2007, qu'on a beaucoup joué. On a fait 3 festivals d'Avignon déjà. Et ben là, on va retourner. Le dernier, c'était en 2011. Donc on revient. Mais on avait envie de le reprendre, ce spectacle. On avait vraiment envie. On a eu l'impression qu'on avait beaucoup joué, beaucoup tourné. Mais on avait quand même l'impression qu'on ne l'avait pas amené là où il pouvait encore aller. Donc voilà.
On va oui, puis en plus de ça, j'avais remarqué, parce que Jean-Marie et moi, on l'avait vu plusieurs fois. Vous ne jouez pas toujours les mêmes sketchs. Il y avait des sketchs où vous changiez de temps en temps.
On faisait des essais. On est arrivé maintenant à une forme.
À peu près définitive.
Oui, oui, il y a des choses qu'on a fini par couper. Il y a des choses qu'on avait coupées pour Avignon parce qu'il fallait rentrer dans certains créneaux.
Horaires.
Ouais. Et puis, qu'on a fini par couper parce que. On a fait beaucoup expérimenté sur ce spectacle-là.
Ouais.
Entre les différentes versions. Mais là, grosso modo, depuis 2011,
ouais.
En 2010, le spectacle était dans sa forme quasi définitive. Et après, on l'a joué, le dernier Avignon.
Et ça a eu beaucoup de succès, j'imagine.
Ah oui, on l'a beaucoup tourné jusqu'en... Les dernières dates, ça devait être 2017.
Ouais.
Donc on ne l'a pas joué depuis 2017, mais là, on a très envie de retrouver...
Non, c'était vraiment une...
Ça a été traduit en langue étrangère, non?
Non, mais c'est difficile hein, de traduire Francis
anglais,
Blanche,
par exemple.
De traduire Francis Blanche, parce qu'il y a quand même beaucoup de calembours.
Ouais,
c'est difficile de traduire.
Comme ça serait marrant. En espagnol.
Mes chers élèves, vous allez comprendre que c'est difficile à traduire. Mes chers élèves, notre école va être obligée de fermer si vous n'apportez pas votre bol pour permettre de continuer. Moralité.
C'est quoi la moralité? Je me
rappelle. La moralité, c'est pour que l'école dure amis donnés.
Amis donnés. Ah.
D'accord.
Donc ça, c'est difficile à traduire. Hein.
Ouais.
Je vous en fais une autre.
Ouais.
Cet homme a de l'arthrite. Et pourtant, me dit-il, il peut avec aisance aller et gambader. Mais c'est quand il veut s'arrêter que la douleur à nouveau l'horripile. Moralité? L'arthritique est aisé, mais l'arrêt est difficile. Convenez que c'est difficile à traduire. Hein.
Mais c'est sacrément bien trouvé.
Ben, c'est tout le génie de Francis Blanche.
Alors, ça y est, je crois.
J'ai trouvé la danse macabre.
Ah,
elle s'appelle la danse macabre.
Et c'est ça.
C'est macabre.
Oui. Interprétée ici par Entre deux caisses.
Ah, très bien.
Oh! pique, pique, pique.
Voici les piqûres.
Cache, cache, cache.
Voici les cachets.
Tempe, tempe, tempe.
La température.
Prenez vos bibis, prenez vos billets.
Pique, pique, pique.
Voici les piqûres.
Cache, cache, cache.
Voici les cachets.
Tempe, tempe, tempe.
La température.
Prenez vos bibis, prenez vos billets.
Le mal est là partout qui rôde. Il faut avant tout sauver vos santé. Prenez plutôt des boissons chaudes. On vit sans alcool, mais jamais santé.
Buvez des titis, buvez des tisanes.
Prenez vos goûts
de tous les matins.
Soignez vos ozons,
soignez vos organes.
Vous pourrez un jour en avoir besoin.
Il faut dès demain faire des tas de soins.
Soin, soin, soin,
soin, soin.
Pam, 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 pam.
Diète serrée tous les dimanches, les autres jours de la semaine aussi. Si vous avez la langue blanche, tâchez que ce soit la blanche. Merci.
8 heures du soir, il faut qu'on se couche. Si vous voulez que le mal soit vaincu,
avec une pilule dans la bouche et la pointe du thermomètre sous le bras.
Pique, 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 voici les piqûres.
Cache, 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 voici les cachets.
Tempe, 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 la température.
Prenez vos bibis, prenez vos billets.
Pique, 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 voici les piqûres.
Cache, 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 voici les cachets.
Tempe, 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 la température.
Prenez vos bibis, prenez vos billets.
Pique, 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 voici les piqûres. Dans la bouche,
tempe, 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 la pointe du thermomètre.
Prenez vos
bras. Quelle joie exquise.
La tête penchée,
de se mettre des gouttes dans le nez,
de se mettre des gouttes dans les trous du nez,
dans les trous du nez,
dans les trous du nez.
Ah, quel plaisir d'avoir un bon compte-gouttes. Ah, quel plaisir de savoir s'en servir avec, avec la pénicilline.
La pénicilline, la théramycine, l'oréomycine et le colacol, la tifomycine, la supokinine et le bougamine et le gomendol.
La pénicilline, la théramycine, l'oréomycine et le colacol,
la tifomycine, la supokinine et le bougamine et le gomendol.
Désinfectons nos existences. Une grippe asiatique ni le rhume anglais. C'est le virus qui vient de France, qui seul nous donnera l'amour et la paix.
Désinfectons,
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 désinfectons.
Qu'un air plus pur abreuve nos poumons, nos poumons.
Et si vous avez appris par cœur l'avant-dernier couplet, c'est bien, vous pouvez passer à la pharmacie, faire votre commande de tiramisine, épipicine, mes machins et tout de ça.
Ah ben oui, hein.
C'est ça, c'est un pont commun entre les deux spectacles.
Oui, oui, oui.
Ça me fait réviser, en fait.
C'est toujours d'actualité, il me semble, hein. Ça fait plaisir, quoi, d'entendre ça, parce que
Ah oui, tout à fait.
On a tellement été dans la... Jusqu'au cou et jusqu'au visage, en train d'entendre parler de virus.
Ah oui, parce qu'en plus, bon, là, on est tout à fait conscient que ce morceau-là, ce passage-là en particulier dans le spectacle, va prendre une résonance tout à fait nouvelle. Parce que quand on a créé le spectacle, c'était bien avant le confinement. Et là, c'est sûr qu'on s'attend à un écho.
Oui, ça sera dans
une
le spectacle.
Résonance nouvelle. Ah oui, ça... oui, oui, oui.
Ah oui.
Oui, oui.
Et Jacques, dans Le Malade Imaginaire, alors, c'est le même genre de chansons, ou c'est des chansons beaucoup plus modernes, ou c'est des chansons qui ont à voir avec la médecine quand même?
C'est beaucoup plus moderne, mais on retrouve aussi ce genre de petites choses comme ça sur des évocations, des petites choses que j'ai rajoutées. Mais bon, ça me donne des idées. Au fur et à mesure, va couper là, on va rajouter là.
Parce que,
c'est l'avantage des spectacles,
tu dis que
c'est
que c'est
évolutif.
Des intermèdes modernes.
Oui.
Moderne, c'est-à-dire, justement.
C'est-à-dire que pour remplacer les chansons, parce que quand on lit Les intermèdes de Molière, ça a énormément vieilli, puisque c'est sur la médecine d'espace. Tous les textes qui.
Oui, je ne me souvenais pas qu'il y avait des intermèdes.
Ah, j'ai le souvenir qu'ils étaient plus, c'était plutôt à la fin.
Alors, pas du tout. Au début. Chaque acte et à la fin. Donc, c'est vraiment un truc qui avait été écrit pour qu'il y ait énormément de musique, de chants, de machin truc. Et donc, je trouve que c'est bien de garder cet esprit-là, mais dans quelque chose qui aujourd'hui.
Et ce sont des chansons de qui alors
Il y a de tout. J'ai pris une chanson de Juliette Armanet, une chanson de comment s'appelle-t-elle, Ah si j'étais un homme, ça c'est Toinette, hein? Non c'est hein? Ah si j'étais un homme je serais quelqu'un, bref, il y a trois chansons de femmes et voilà, je voulais qu'il y ait un équilibre quand même entre les autrices et les auteurs.
c'est très festif quoi, comme spectacle.
C'est très festif, voilà. Et puis c'est aussi pour donner une autre vision aussi des femmes, c'est-à-dire le fait que Toinette s'en si j'étais un homme, avec un côté comme ça à la fois utiliser son ustensile pour le ménage, donner aussi la fatigue en fin de journée.
C'est féministe alors.
Féministe, un peu comme dans toutes mes mises en scène.
Ah oui.
Et donc, je trouve que c'est très important de traiter, par exemple, la jeune première différemment, parce que les filles d'aujourd'hui ont une façon de faire entendre leur voix qui est différente. Donc, je trouve que le théâtre doit aussi faire entendre ça. Le moment où on monte le travail souterrain d'une société, ce qui se joue à travers le texte qu'on monte. Voilà.
Oui, il faut inclure, alors c'est pas l'écriture inclusive, mais ça commence déjà, ça rentre un petit peu, avoir l'esprit un peu de penser à la femme, parce que c'est vrai que tous les écrivains depuis la nuit des temps, c'était quand même des hommes, faut pas l'oublier.
Il y a des choses qui ne passent plus. Si on joue aujourd'hui la jeune fille complètement soumise, oui, au bout d'un moment, ça devient choquant. On n'est plus dans la farce. On est presque dans l'agression. On se dit, c'est pas possible qu'on la traite comme ça.
D'ailleurs...
Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je trouve que c'est très intéressant qu'à partir d'une contrainte culturelle, des femmes s'emparent du pouvoir, l'air de rien.
Et oui, dans Molière, elles ont du toupet, les femmes dans Molière.
Avec finesse.
Ah oui, elles ont souvent du toupet dans les pièces de Molière.
La Molière.
Hein?
Là, Toinette, elle a du toupet. Mais normalement, Angélique, elle est très contrainte.
Oui, j'ai vu ça dans l'Avare.
Mais il y a une façon de sortir les choses, de les poser différemment, qui fait que d'un seul coup, avec les mêmes mots, on fait entendre d'autres choses. C'est ça qui est intéressant au théâtre.
Ah oui, sûrement.
Dans l'interaction d'acteurs, c'est fabuleux. Tous les trucs qu'on trouve, qu'on ne s'attend pas. Les gars qu'on peut trouver à partir de... Voilà. Dans les accidents, dans les erreurs qu'on fait, d'un seul coup, paf, on n'aurait pas pensé autrement.
Et donc, Fabienne, elle t'aide
Alors, Fabienne, elle m'a aidé sur l'enfer. Voilà, que vous aviez vu tous les deux. On s'est dit, voilà, c'est l'occasion d'annoncer en même temps la reprise du spectacle qu'on avait créé au Ciel et Saillon, et qu'on reprend du 9 octobre au 18 décembre au théâtre du gymnase. Voilà.
9 octobre
au 18 décembre au théâtre du gymnase.
Ah, mais c'est de nombreuses dates alors.
On joue que le lundi cette fois-ci. Parce que je trouve que c'est bien d'avoir comme ça un rendez-vous chaque semaine. En plus, c'est le jour de relâche pour beaucoup de spectacles. Donc, on va avoir plein de copains qui vont pouvoir venir nous voir.
C'est une pièce... Je me dis, L'Enfer, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je te conseille d'aller le voir.
Je
vous conseille d'aller le voir. C'est prenant, tu te donnes, tu te jettes dans l'arène, quoi. Je veux dire, tu te donnes complètement, quoi. C'est pas...
C'est assez intense, Phoebe.
C'est très intense.
C'est vrai, quand
c'est pas de la rigolade.
Quand on fait un monologue comme ça, avec un texte très très profond... Mais bon, il y a aussi des respirations, des petits moments de chant, des petits moments de danse, voilà. Quoi.
Oui. Mais c'est un texte très fort, très fort.
Voilà, c'est toute la diversité du théâtre. Un texte de répertoire classique qu'on réinvente pour le faire entendre aujourd'hui. Un texte comme L'Enfer, qui est l'adaptation d'un roman. Pareil aussi, dans la forme de l'adaptation, c'est quelque chose qu'on entend complètement comme s'il était écrit aujourd'hui. la poésie voyage à travers les siècles. Et puis, il faut aussi... moi, j'aime monter régulièrement des écritures contemporaines, et donc on...
Et Molière, c'est toujours moderne, Molière.
Pour
encore,
faire entendre la langue d'un dramaturge aujourd'hui. Donc,
c'est assez extraordinaire quand même, parce que Molière, bon, Shakespeare c'est pareil, mais Molière quand même, il date de je sais plus, il y a 400 ans là, on dit.
Non, on vient de fêter
400, il a 401 ans, ce qui est paradoxal, c'est que l'année dernière on fêtait les 400 ans de sa naissance, et que cette année, c'est les 350 ans de sa mort, puisqu'il est mort à 51 ans.
Ouais.
Donc, à une,
en 50 ans, il a
fêté la naissance et l'en fait la mort. C'est fou, quoi.
Ouais. 400,
400 ans
de naissance.
De naissance.
Ça fait 400 ans qu'il est né. Ça fait un bail quand même. Il s'en est passé des choses en 400 ans. Et on le joue encore. Il serait stupéfait.
Il serait stupéfait, oui.
Il serait stupéfait.
C'est ça qui est fou dans l'écriture. Parce que, par exemple, Barbus, qui était célébré, dont l'écriture était connue, reconnue, qui a eu une importance colossale avec le feu, puisque ça a carrément contribué à arrêter la guerre 14-18. Et bien, aujourd'hui. Quand je vois les réactions après, je vais lire Barbus, parce que je connaissais pas, c'était un nom de rue, un nom d'école, de collège. Et en fait, c'est fou, il y a des écritures qui.
Mais
ont
il
n'a
pas écrit tant que ça non plus.
Mais par exemple, on a complètement oublié, puisque c'est un peu d'actualité aujourd'hui, on a complètement oublié que Dumas, par exemple, a fait une carrière d'auteur dramatique, il était très connu pour ça, et on a complètement oublié le théâtre de Dumas. Il s'est mis au roman, et maintenant c'est devenu le chanteur, enfin du roman. Enfin, du roman. On a complètement oublié que l'auteur dramatique a succès. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'art majeur, c'était l'art dramatique, hein, pour l'écriture. Le roman, c'était ce qui se faisait dans les journaux.
Toute la tragédie, les Alexandrins, etc., ont complètement changé le langage de l'époque. Et c'est à travers le théâtre que le langage a permis que les conflits diminuent entre les gens et que peu à peu, on vient à bout du duel. C'est-à-dire qu'en fait, ce va-et-vient entre le théâtre et la société, il y avait une prégnance incroyable, quoi. Et si on parle des écritures oubliées...
Théâtre de Voltaire aussi. Hein.
Dans les romanciers...
Mais ça ne doit pas être très bon non plus. Hein.
Ben, je vais vous surprendre, mais... en tout cas, je crois que c'est encore l'auteur qui a été le plus joué à la Comédie Française.
Voltaire.
Ah, mais c'est fou.
Peut-être après Molière. Mais donc, c'était un auteur jusqu'au 19e qui était énormément joué. On a complètement perdu le théâtre de
Voltaire.
Si on parle au niveau des écritures des contemporains de Céline, comme Barbus, qui a été oublié, il y a des poètes mais incroyables. Luc Dietrich, par exemple. Luc Dietrich.
Ouais, je connais pas.
C'est un auteur, mais incroyable, mais plus personne ne le connaît. L'apprentissage de la ville, l'autre titre, je ne me rappelle pas. Mais il écrit, mais c'est fabuleux. Et plus personne ne le connaît, Luc Dietrich. Donc, j'espère qu'un jour, il y aura un théâtre qui va s'emparer.
Alors lui, on connaît son nom, mais Anatole France.
Oui.
Les surréalistes lui ont fait beaucoup de mal, Anatole France.
Sans doute. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas un spécialiste, mais simplement, j'observe que c'était un auteur qui a été extrêmement célèbre.
Il a eu des funérailles nationales, oui.
Et qu'on a absolument. Sa dernière gloire, c'était d'animer nos dictées quand nous étions encore à l'école. Mais sinon.
Mais sinon,
ça ne nous rajeunit pas. Ou ça nous rajeunit, plus exactement. Mais voilà, il y a des bizarreries comme ça, ces auteurs.
Il y avait Luc Dietrich, il y avait Jean Malaquais qui a été un petit peu redécouvert. Oui. Mais Luc Dietrich, il reste encore à découvrir. Alors qu'il est.
Faudra venir en faire des lectures, Jacques. Qu'on le découvre, qu'on découvre cet écrivain. Parce que moi, j'imagine, quand si on veut s'amuser à se promener dans les couloirs de la Bibliothèque nationale, je suis persuadée qu'il y a des trésors là-dedans, qu'il y a des écrivains qui sont complètement sombrés dans l'oubli. C'est un peu parfois un cimetière, les bibliothèques de livres. Et là, les gens, ils les ont complètement oubliés. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais il y a peut-être des trésors, ça c'est sûr. Mais bon, et on est obligé aussi de vivre avec son temps. On ne peut pas non plus toujours...
Oui, à part que de temps en temps, c'est bien qu'à travers le théâtre, on serve des écritures. On est là aussi pour servir les spectateurs en essayant de leur faire des spectacles où on peut penser ensemble et puis servir des histoires, des auteurs, des écritures et c'est une histoire d'inspiration, mais c'est vrai que
et de passion aussi
et c'est vrai que beaucoup à travers le théâtre, enfin là par exemple je suis allé voir le spectacle de Tiphaine Raffier à l'Odéon sur le dernier roman de Philip Roth, Némésis.
Ouais.
Bon, ben, je trouve que de temps en temps au théâtre, il y a des gens qui s'emparent de romans et qui font des œuvres théâtrales formidables. Mmh. Et c'est vrai que ça crée des nouveaux lecteurs au bout d'un moment.
Ah, sûrement, il le faut. Hein.
Le théâtre est là aussi pour ça, pour apporter, pour démocratiser le langage. Moi, quand j'étais enfant, c'est grâce au théâtre que j'ai découvert la lecture, que d'un milieu modeste, j'ai pensé que le langage, qu'un certain langage, qu'une certaine culture était aussi pour
est-ce moi que tu as lu le livre de Evelyne Trin?
Mais je vais le lire.
Ouais, mon enfant. Bon,
c'est bien d'en parler comme ça. Je
non, c'est vrai.
Oui,
c'est intéressant.
J'ai
de
commis
le lire.
Un livre, comme on dit.
Comment s'appelle-t-il?
Mon cher enfant.
Mon cher enfant.
Cher enfant. Ouais. Mais c'est un peu. C'est un peu personnel, quoi. C'est pas très facile à lire. Et bon, enfin, pas très facile à lire parce que j'ai quelques échos de personnes qui l'ont lu, qui ont dit que ça remuait beaucoup de choses en eux. Et bon.
Puis avec une langue française très sophistiquée.
Non, c'est pas vrai.
Ah, si,
ah ça, c'est pas vrai.
Ou élaboré.
Ah, oui, vraiment.
Non, alors.
Attends, ah, il faut le lire.
Sophistiqué ou élaboré. Parce que ça, c'est différent.
Ouais.
Élaboré, c'est différent.
Ouais. Non, je c'est un petit peu une histoire familiale. Et donc, mon cher enfant, c'est le fil conducteur, c'est l'enfant. À travers plusieurs, peut-être plusieurs générations, ou deux pôles, Occident et Asie. Parce que je suis eurasienne, voilà. Donc, j'ai un côté de l'Asie, et puis j'ai un côté de
Et ben, on le trouve facilement pour
l'acheter. Bon, il suffit de taper sur Internet. Hein,
d'accord.
Mon cher enfant, puis voilà. Hein, c'est pas très...
Bon, mais c'est bien, en tout cas, de le savoir, mmh. Mon
oui,
cher enfant.
Oui. Ouais. D'accord. C'est gentil d'en parler.
Voilà, peut-être ouais, même que quelqu'un s'en parlera de ton texte. On
s'est dit aussi. Comment
ouais. Voilà. Mais c'est bien, on est là pour servir des écritures et aussi pour les provoquer. Donc je trouve ça formidable, votre initiative, d'avoir provoqué une écriture, d'avoir comme ça incité, c'est une forme de transmission, de partage. Moi je sais que là par exemple il y a de jeunes acteurs, et j'adore ce rapport au théâtre entre les âges, de transmettre, de faire éclore des nouveaux talents, de voilà.
Mais tu vois par exemple Evelyne tout à l'heure te demandait qu'en penserait Molière, je suis sûr que si tu l'avais sous la main, dans ce jeu d'échange, ça serait merveilleux.
C'est un régal de pouvoir travailler avec des auteurs vivants, c'est sûr.
Un auteur vivant, il est vivant
surtout que,
quelque
surtout
part.
Surtout que
hein.
Souvent, bon, on peut se dire, voilà, j'adapte, mais c'est pas j'adapte parce que je veux que ça résonne. Et c'est une manière de leur rester fidèle. C'est pas une trahison, c'est une
tout
manière de rester fidèle à...
Mais c'est pareil avec les traductions.
Oui.
C'est pareil avec les traductions. C'est pour ça que c'est bien de les réactualiser, parce que en les trahissant un tout petit peu, on les sert parce qu'on les fait entendre différemment dans notre époque.
Mais bon, la traduction, de fait, c'est un peu inconfort, puisque... Quand on retraduit à chaque époque, on fait. Mais quand on est sur Molière, c'est plus compliqué.
Tout à fait.
Je pense que oui, voilà, c'est plus facile de réactualiser chez nous finalement Shakespeare que Molière.
Oui, exactement.
Ah bon. Ah, vous êtes des spécialistes, en vrai.
Il faut avoir la même. Les Anglais, ils n'hésitent pas à couper du Shakespeare.
La coupe, c'est une chose.
Ça peut
à la limite se
concevoir.
Mais placer un mot pour un autre, c'est... Alors bon, oui, on le fait déjà en France depuis longtemps avec Montaigne ou Rabelais. Hein.
Oui, voilà.
On a déjà pris cette habitude-là. Je pense que Molière est encore accessible quand même, donc c'est un peu entre... Mais peut-être qu'il faudra. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi parfois, je veux dire, c'est une manière de rester fidèle, finalement.
Exactement.
On pourrait peut-être passer en transition, parce qu'on va parler de ton disque, Fabienne, passer le texte de Jean-Marie, intitulé « Merci beaucoup ».
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous les coups de soleil, pour mes coups de fortune, pour nos coups de bouteille et pour les culs de lune, pour les jours de semences, pour les jours de défonce, pour les fois de malchance, pour les coups de semonce et pour les coups de gueule aussi, et pour tes lèvres dans mon cou. Merci beaucoup. Pour nos grands coups de foudre, nos coups de sirocco, qu'on fait parler la poudre, qu'on risque le fiasco, nos avis de tempête de table, et pour les peurs qui mettent nos envies sur le sable, comment ça va ? Coussa, coussi ? On se déchire, on se recoue. Merci beaucoup. Pour le bord des chemins où l'on se gémélise, dans une main ta main, dans l'autre ma valise, pour les coups de scapin, les coups de Trafalgar, et pour les petits lapins qu'on pose dans les gares, pour les textos d'amour concis, jolis comme des IQ. Merci beaucoup. Pour la lenteur des choses, pour les menus plaisirs, quand l'amour fait la pause, fait durer le plaisir, pour la longueur des nuits, pour la langueur des jours futiles, les jours d'ennui, quand t'es loin de moi, pour le bonheur qui n'a pas de prix, et l'amour qui n'a pas de coût. Merci beaucoup. Pour les jours de défonce, pour les jours sans semence, sur les jours de semonce, sur les fois de malchance, sur les idées sournoises, sur les jours de cochon qui sont dans mon ardoise, donne un coup de torchon, arrose d'un coup mes soucis, rince-moi la dalle du cou. Merci beaucoup.
Voilà. Merci, Jean-Marie. Alors, Fabienne, mais tu pourras faire de la guimbarde, hein, moi.
Oui, non, mais je vous en prie, allez-y. Ah,
moi, non, parce que
je fais la fin, moi.
Ah, tu fais la fin, d'accord, voilà. J'ai écouté La Mémoire enchantée, et ça se passe au Connétable.
Oui, le spectacle c'est a beau, été enregistré hein, au Connétable, beau, hein. Et c'est un disque live.
Oui, vraiment, c'est super bien enregistré, je trouve. Hein. C'est
oui,
reconnaissable.
Oui. C'est un ami qui a enregistré, qui est preneur de son, Fred.
Fred.
Oui.
Ah oui. Alors, je ne sais plus. Tu veux qu'on t'appelle Fab? Ah oui, j'ai déjà posé la question la dernière fois. Qu'on t'appelle Fabelle ou Fabienne? Les deux?
Ben les deux, parce que si tu veux, je me suis appelée Fabienne Elkoubi pendant tellement d'années que. Le fait de m'appeler Fabelle après, j'ai perdu un peu d'auditeurs. Donc maintenant, j'ai repris les deux noms, et puis voilà. Comme ça, tout le monde me suit.
Alors, c'est un disque qui date déjà de l'année dernière, je crois.
Oui, c'était juste avant le Covid qu'il a été enregistré, puis après, il est sorti, mais...
2019, oui. Voilà. Rouge orange 2019, c'est ça, c'est juste avant, ouais. Déjà le temps passe.
Là j'écris le prochain, mais pour le moment je travaille encore sur celui-là. Quoi.
Parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été retardées.
Oui. Et tu as un concert de prévu
pas encore, tout de suite. Non. Je préfère me consacrer à la rentrée au spectacle de Jacques, et puis après je pense refaire quelque chose. Comme c'est en préparation, je pense le faire après.
On y travaille.
C'est en construction.
D'accord. Parce que le Connétable, tu y passes, on peut y passer quand assez souvent.
Fabienne, porte ouverte.
Françoise m'aime beaucoup parce que je connaissais bien Maurice Fanon et donc elle est tellement adorable.
En tout cas, j'étais surprise parce que je pensais pas dans une petite cave, parce que c'est dans une cave, hein,
oui,
que l'acoustique pourrait être aussi bonne.
Ben, c'est-à-dire que là, j'ai voulu créer ce spectacle là-bas parce que c'est un des endroits où j'ai débuté. Donc, comme c'était un peu un anniversaire, j'avais envie de revenir au même endroit.
Et ça change le rapport. De temps en temps, c'est bien aussi de pas faire toujours des grandes salles et de recréer du rapport intime. Je trouve que c'est très important parce que les gens écoutent d'une manière totalement différente et sont surpris de se retrouver si près des artistes. Mmh. Je trouve que c'est important de temps en temps de revenir à ce rapport-là.
Oui, 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 sûrement.
On est très près aussi à Les Saillons. C'est magnifique, cette intimité.
Oui, 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 c'est sûr. Hein. Enfin, pour la rentabilité, c'est autre chose.
Oui, bien sûr. Bah, quand on peut le faire pour la rentabilité, on le fait pour la rentabilité.
Oui, mais...
Et quand on le fait pour le partage, voilà, c'est bien aussi.
Et puis ça m'a permis d'avoir cet album en live. C'était la première fois que tous les autres ont été faits en studio. Donc c'était important pour moi de le faire dans un endroit où je me sentais vraiment un peu comme chez moi, quoi.
Ah oui, oui, moi je trouve que ça c'est vraiment, c'est très très bien à l'écoute. Hein. Et tu as l'idée aussi, tu as une vidéo sur scène, enfin une vidéo d'un spectacle que tu fais sur scène.
Alors là, au Connétable, on n'a pas fait de vidéo parce que justement, comme l'endroit est assez petit, on n'avait pas assez de recul.
Oui, oui, oui.
Donc, on a le disque, et puis la vidéo, ce sera pour le prochain spectacle.
Ah oui, c'est très bien. Et ben alors, là, il y a beaucoup de titres. Je te laisse le choix. Qu'est-ce que tu auras envie qu'on entende de...
Mais écoute, peut-être
Rendez-vous. Rendez-vous. D'accord.
Comme ça, je donne rendez-vous à tous les gens plus tard.
Et puis, il y a Femme Flamme qui est pas mal aussi. J'aime bien Femme Flamme.
Ah, si tu veux Femme Flamme.
Non, non, mais oui. On peut mettre les deux, hein, je pense.
Ah, bon, d'accord. Le temps. Ben, écoute, avec plaisir.
Festival.
Rendez-vous, rendez-vous à mon amour, rendez-vous. Dans un an ou dans un jour, rendez-vous. Au coin du prochain carrefour, rendez-vous. Rendez-vous, quel que soit votre bagage, rendez-vous. Quels que soient vos bords d'ancrage, rendez-vous. Avec vos joies, vos mirages, rendez-vous. Ses racines dans notre amour. Terre d'argile, terre fragile, terre docile, terre d'exil. Nous sommes de la terre qui pétrit ses enfants de lumière et de vent. Carrefour, rendez-vous. Rendez-vous, quel que soit votre bagage, rendez-vous. Quels que soient vos bords d'ancrage, rendez-vous. Avec vos joies, vos mirages, rendez-vous. Prochain carrefour, rendez-vous. Rendez-vous, quel que soit votre bagage, rendez-vous. Quels que soient vos bords d'ancrage, rendez-vous. Avec vos joies, vos mirages, pour notre rendez-vous.
Oh, tiens, là que j'ai le frangin en face, à quel âge est-ce que Fabienne s'est rendue compte qu'elle avait une voix?
Très vite, hein, je crois que tu as toujours chanté. Hein.
Oui.
Puis en plus, quand on était petit, on chantait déjà à l'opéra. Notre premier salaire, on l'a eu très tôt.
On était
par un petit miracle comme ça, d'une voisine qui nous a entendu chanter.
Parce que tu chantes aussi.
Moi, je chante aussi, oui, mais bon. Hein? Fabienne, c'est le...
Ah, c'est le...
Ah, c'est le top. Voilà, ouais. Donc je pense que Fabienne, elle, oui, elle a eu l'intuition assez tôt qu'elle avait que sa vie, c'était ça.
Ben, ma mère m'a toujours dit, j'ai commencé à chanter presque avant de parler, quoi. Donc,
d'accord.
Elle plaisantait peut-être, mais c'est vrai que très, très vite, j'ai toujours chanté, quoi.
Et donc, c'est toi qui écris les chansons aussi?
Oui, Jacques a écrit aussi quelques textes pour moi, mais j'écris la plupart des chansons, oui.
Et la musique?
Aussi.
Aussi? Oh là là, c'est extraordinaire, ça. Ben, je veux dire, de tout faire, quoi, je veux dire... Non, non, mais c'est bien, quoi, je veux dire,
ah oui,
de pouvoir
c'est,
tout faire.
C'est bien parce que ça permet vraiment d'exprimer tout ce qu'on ressent et l'écriture, c'est formidable, quoi, parce que vraiment, ça permet vraiment de partager avec les gens tout ce qu'on a à l'intérieur, quoi. Je m'exprime plus facilement par les chansons que dans la vie, quoi.
Oui, oui, je comprends, je comprends. Et sur scène aussi, j'imagine.
Et sur scène aussi.
Ah oui, et c'est sûr. Les comédiens, c'est ça. En fait, c'est pour ça que moi, j'avais vu une pièce de Tchekhov, l'histoire d'un comédien qui était en fin de carrière. Là. Ah, c'était le lever de rideau, je ne sais pas quoi. Enfin, un truc.
C'est vrai, c'est une pièce
courte. Oui, très courte. Ah, oui. On voit un comédien qui...
Dans le théâtre vide. Hein.
Oui, dans le théâtre vide, qui se réveille dans les coulisses. Et une fois, c'était joué par un acteur qui est décédé depuis, qui s'appelait, pas Merlin, je ne sais plus comment il s'appelait. Très connu, d'ailleurs. Enfin, c'est une pièce, ça me fait penser à ça. Et en lisant cette pièce de Tchekhov, là, sur le comédien...
C'est pas le... Non, j'allais dire une bêtise.
Oui, continue. Oui, sur le comédien qui en fin de parcours et puis qui n'a plus le droit de jouer ou je sais plus ou même il n'a plus que le rôle de souffleur enfin etc, mais il raconte son plaisir de jouer justement à la place de, il est le souffleur mais il voudrait jouer à la place de celui qui est sur scène, mais enfin c'est là qu'on ressent l'importance d'être sur scène, je veux dire c'est quelque chose de... Moi, je comprends ça. Enfin, je veux dire, je l'imagine. Être sur scène, c'est comme dirait le nec plus ultra.
J'entends tout à fait ce que dit Fabienne. C'est-à-dire quand on a parfois, et moi aussi, hein, des difficultés à être dans ce monde ou à peut-être à prendre la parole à un moment, la scène nous donne cette légitimité. Moi, j'ai toujours du mal, peut-être pas avoir du mal à prendre la parole en public. Ou en société, bon là on est entre nous, entre amis, tout va bien. Mais c'est parfois compliqué, c'est se faire violence, on sent qu'on n'a pas la légitimité. Sur scène, il faut qu'on le fasse d'abord, parce que les gens ont payé pour ça, si on le fait pas, ils vont gueuler. Mais on a la légitimité. Et en plus, bon, les comédiens, moi j'ai fait un peu de chansons aussi, je vois aussi la différence, c'est qu'on a aussi, en plus, on est protégé par un personnage, ouais. Par un masque, mais quand on véhicule son propre univers, ses propres croyances, ses propres souffrances, ses douleurs, quand on chante ces textes, et qu'on a le droit de le faire parce qu'on est sur scène, alors qu'on a tant de difficultés à le faire dans la vie, ben c'est une chose.
C'est une libération.
C'est une chose et dont il faut profiter parce que.
Tout à fait. Voilà. Mmh. Et beaucoup de comédiens sont d'anciens timides. Hein.
Oui, bien sûr, ça on le sait.
Bien oui, c'est vraiment ce qu'on croit.
Après, hein. Je trouve qu'il y a une vraie différence. Enfin, j'imagine, j'ai jamais. Était chanteuse, mais j'imagine qu'il y a une vraie différence entre être comédien et pouvoir se cacher derrière un rôle, où là, arriver sur scène, bonjour, je suis Fabienne, je chante mes chansons, c'est sorti de mes tripes, et autant moi, si on n'aime pas la pièce, éventuellement, pour l'instant, on a de la chance,
oui, mais
on peut se cacher derrière un personnage, une écriture, un truc qui... Mais là, ça t'appartient complètement, c'est quelque chose que tu livres à tout le monde, waouh, moi je trouve ça...
Ben, je pense qu'on s'habitue. Hein. Au début, peut-être que tu as le trac, puis après, on est habitué. C'est une seconde nature.
Ça, Fabienne le fait simplement, mais je trouve que, comme tu le dis, c'est fort. Ouais. Et surtout qu'il y a quand même il y a plus de femmes aujourd'hui, mais c'est vrai que quand Fabienne a commencé, elles étaient moins nombreuses et encore plus fortes, parce qu'elles ont préparé le terrain. Et moi, je sais que Fabienne, elle m'a devancé sur le chemin de l'écriture, elle m'a ouvert la voie. C'est vrai que c'est plus facile quand on a quelqu'un qui a déjà fait une partie du travail et qui vous donne le courage de le faire, parce qu'on se dit finalement, ça peut se faire, quoi.
Alors moi, parce que tu as ta guimbarde, il faut quand même que tu dises un mot. Hein?
Bon, avec votre permission. Voilà, 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 mon cher ami. Alors, je profite de l'occasion, justement, pour annoncer un spectacle de notre cher Éric Chartier, qui s'appelle Stendhal, le rouge et le noir, au théâtre au Port du Salut. Théâtre au Port du Salut, 163 bis, rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement. Voilà, voilà, courez vite, c'est tous les mercredis à 19h. Et sinon, je viens du Sancerrois, où nous étions invités, ma femme et moi, qui dirige Science et Avenir, pour rendre hommage à Yves Coppens, grand préhistorien, ça, découvreur de grottes et de, bien sûr, la fameuse Lucie. Voilà, Lucie. Et on m'a proposé un texte que je vais vous lire, qui s'appelle « Les enfants de Luxor », de Bernard Dimet, 1931-1981. Quand je sens certains soirs ma vie qui s'effiloche et qu'un vol de vautours s'agite autour de moi, pour gagner mon sang froid, je tâte dans ma poche un caillou ramassé dans la vallée des rois. Si je mourais demain, j'aurais dans la mémoire l'impeccable dessin d'un sarcophage d'or. Et pour m'accompagner au long des rives noires, le sourire éclatant des enfants de Luxor, à l'intérieur de soi, je sais qu'il faut descendre à pas lents, dans le noir, et sans lâcher le fil. Oui, calme et silencieux, sans chercher à comprendre, au rythme des bateaux qui glissent sur le Nil, c'est vrai, la vie n'est rien, le songe est trop rapide. On sème, on se déchire, on se montre les dents. Oui, j'aurais aimé pourtant bâtir ma pyramide et que tous mes amis puissent dormir dedans. Combien de papyrus ont roulé dans ma tête? Oui, ne verront pas le jour, non jamais, ou seront oubliés. Aussi vite que moi, ma légende s'apprête. Je suis comme un désert qu'on aurait mal fouillé. Oui, si je mourais demain, je n'aurais plus à craindre ni du bec du vautour, ni de l'œil du cobra. Ils ont régné sur tant de dynasties éteintes, et le temps, comme un fleuve, à la force des bras. Les enfants de Luxor, en quatre millénaires, ils dansent sur les murs, et toujours de profil, et savent sans effort se dégager des pierres, à l'heure où le soleil se cache sur le Nil. Je pense m'en aller sans que nul ne remarque, ni le bien ni le mal que l'on dira de moi, mais je déposerai tout au fond de ma barque le caillou ramassé dans la vallée des rois. Merci.
Merci.
Bernard Dimet. Voilà.